Le changement climatique est un défi mondial et transversal qui touche tous les continents et pays, dont la Côte d'Ivoire. Cependant, les impacts du réchauffement climatique varient considérablement en fonction des contextes politiques, socio-économiques et culturels, parce que les inégalités de genre peuvent aussi influencer la manière dont les individus les expérimentent et réagissent aux effets du réchauffement climatique. Les femmes et les hommes n'ayant pas les mêmes ressources, pouvoir et responsabilité. Dans de nombreuses sociétés, les femmes, notamment dans les communautés rurales et les pays en développement, sont souvent plus vulnérables aux impacts climatiques en raison de leur rôle traditionnel dans l'agriculture, la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Elles peuvent être plus affectées par des phénomènes tels que les sécheresses et les inondations en raison de l'accès limité aux ressources et à la prise de décision. En intégrant une perspective de genre dans les politiques et les initiatives climatiques, est-il possible de renforcer les capacités d'adaptation de l'ensemble de la communauté et de promouvoir une gestion plus équitable et durable des ressources? L'intégration des questions de genre dans les stratégies d'adaptation au changement climatique apparaît-elle essentielle pour garantir des interventions justes et efficaces? Quel lien peut-on établir entre le genre et l'adaptation au changement climatique? Pour répondre à ces interrogations et à bien d'autres, nous sommes en compagnie d'une dame. Notre invitée est en fonction au ministère ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Elle est également la sous-directrice des études de projet, négociatrice sur les questions de changement climatique et genre. Elle est par ailleurs le point focal de l'action pour l'autonomisation climatique. Bienvenue à toutes et à tous.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Madame Adiko Ange Patricia, bonjour.
Bonjour madame.
On parle de plus en plus de genre et de l'adaptation au changement climatique. Alors, comment les rôles traditionnels de genre influencent-ils la capacité des communautés à s'adapter au changement climatique?
Il faut dire que les traditions, en fait, ne peuvent pas totalement être un frein, en fait, à l'adaptation des femmes au changement climatique. Mais il faut vraiment une sorte de collaboration, une communication. Parce que du jour au lendemain, on peut pas changer nos mœurs, nos attitudes, nos comportements traditionnels. Mais il y a des bonnes pratiques qui sont dedans. Il y a des bonnes pratiques que nous pouvons utiliser. Et donc, pour une meilleure adaptation, il faut une communication. Il faut vraiment une synergie d'action. Il faut complémentarité, en fait, dans tout ce qu'on fait. Donc, pour dire que le traditionnel ne peut pas être du jour au lendemain être banni, mais il faut une transition.
Quels sont les rôles traditionnels du genre?
Il y a la non-participation peut-être des femmes dans le cadre du traditionnel aux discussions. Il y a au niveau des cultures, la femme pour la plupart n'a pas droit au foncier, n'hérite pas de la terre pour certaines cultures. Et il y a la religion aussi. Donc par le passé, la femme était relayée au second plan dans le cadre du développement. Et je pense que le volet traditionnel était plus ou moins axé sur la femme reste à la maison, la femme est au foyer et la femme s'occupe des enfants.
Alors, selon vous, quelles sont les principales vulnérabilités spécifiques aux femmes face aux impacts du changement climatique?
Il faut dire que au niveau social, par exemple, au niveau économique, au niveau culturel, les femmes sont vraiment très vulnérables dans la mesure où la plupart de nos mamans sont vraiment agricultrices. Elles sont dans le monde rural. Et qui dit dans le monde rural, et maintenant avec le changement climatique, on parle de rareté de pluie, donc ce qui cause une insécurité alimentaire. Et ça augmente la charge des travaux des femmes. Et puis, il y a la non-scolarisation des enfants, parce que là, avec l'eau qui tarit due au changement climatique, les femmes sont obligées d'aller encore plus loin pour pouvoir chercher de l'eau ou de bois de chauffe pour pouvoir vraiment s'occuper de la famille. Donc, du coup, ça augmente les charges du travail, ce qui fait que au niveau de la santé, la femme est impactée. Et il y a des maladies qui sont récurrentes, il y a des problèmes d'articulation, parce qu'elles doivent charger sur une longue distance. Et puis, quand je parle de la non scolarisation des enfants, surtout pour les filles. Parce qu'une fois que c'est encore loin pour la recherche du bois de chauffe ou de l'eau, c'est la petite fille en fait qui reste à la maison pour pouvoir s'occuper de sa mère.
Madame Adiko, avez-vous une idée des impacts du changement climatique sur la santé reproductive des femmes?
La santé reproductive, pas vraiment, mais je sais que au niveau du changement climatique, par rapport au cycle des femmes, tout peut changer en fait. Il y a le stress qui peut chambouler en fait le cycle menstruel des femmes, hein, la plupart du temps. Il y a une forte natalité parce que vraiment, il n'y a plus d'activité là. Donc du coup, la femme est obligée de céder à son homme quand il s'agit de faire des rapports sexuels. Ça impacte quand même parce que là, il faut vraiment un véritable suivi, il faut une communication, il faut vraiment une entente parce que très souvent, il y a des conflits, il y a des violences qui se passent quand il s'agit de ces gens de cas là. Donc la santé de la femme est impactée parce qu'elle devient du coup fragile compte tenu de ce qui se passe, des catastrophes, pas forcément naturelles, mais il faut augmenter l'économie familiale, donc il faut augmenter les tâches ménagères, il faut trouver d'autres moyens palliatifs pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc la femme prend un coup de vieillesse, donc elle n'est pas autonome. Non seulement elle n'est pas autonome, mais sa santé prend un coup. Non seulement elle n'est pas apte à reproduire, mais quand bien même qu'elle ne peut plus reproduire, mais elle prend un coup de vieux. Elle a des problèmes d'articulation, elle a des problèmes de courbature. Au niveau de son bien-être, elle n'est plus elle-même en fait. Même au niveau de son épanouissement.
En quoi le changement climatique affecte-t-il différemment les hommes et les femmes dans les pays en développement, notamment en Côte d'Ivoire?
Il faut dire que les hommes et les femmes ne sont pas impactés de la même manière dans la mesure où, quand il y a des inondations par exemple, les femmes, les jeunes filles et les personnes vulnérables, les personnes handicapées, il y a beaucoup plus de morts en fait du côté des femmes. Par contre, les hommes s'en sortent plus. Et selon certaines études, lorsqu'il y a des inondations ou il y a des catastrophes naturelles, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus impactées parce que non seulement au niveau génétique elles sont faibles et maintenant avec ces catastrophes là elles sont deux fois plus vulnérables et la plupart du temps elles n'ont pas accès à l'information et au niveau du traditionnel ce sont les hommes qui viennent porter l'information aux femmes parce que les femmes n'ont pas accès à certaines informations quand il s'agit de peut-être prendre part à des réunions sous la Bapalab et ce sont les hommes qui ont cette information mais c'est pas évident qu'elles aient l'information en retour. Donc quand il y a des catastrophes naturelles, elles sont très souvent surprises et ce sont les hommes qui ont les informations mais les informations ne sont pas relayées. Quand on parle de catastrophes naturelles, je parle des inondations, je parle de l'insécurité alimentaire, je parle des maladies qui reviennent suite au changement climatique comme la dysenterie, j'allais dire les mortalités, parce que si les routes sont coupées et les femmes n'ont pas accès aux centres de santé pour les femmes qui sont enceintes, qui doivent accoucher ou qui ont un malaise, et là, on court vers la catastrophe. Donc, il y a des maladies comme la diarrhée, vu la pénurie d'eau, parce que les regards, les canaux d'évacuation, tout est mélangé. Quand il pleut, il n'y a pas de distinguo, en fait, entre les eaux usées et puis les eaux de ruissellement. Donc, du coup, en termes d'inondation ou de changement climatique, les ressources qui sont à disposition, la population, principalement les femmes, sont obligées de s'accaparer de ce qu'elles trouvent là, en fait. En termes de gestion de l'eau, par exemple, s'il faut aller chercher plus loin qu'il y a un petit marigot qui est là, il n'y a pas de traitement, on ne peut que se contenter du moyen de bord qui est là. En fait.
Et par rapport à ça, quelles sont les politiques d'adaptation au changement climatique qui sont mises en place pour pouvoir promouvoir l'égalité des genres? Et comment ces politiques d'adaptation au changement climatique peuvent-elles promouvoir l'égalité des genres?
Wow, ça c'est une question très pertinente dans la mesure où dans sa ratification à l'accord de Paris et plus précisément à l'adhésion à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire a signé plusieurs conventions, non seulement dans le cadre du changement climatique, mais en ce qui concerne le genre, la Côte d'Ivoire a signé certaines conventions. Du coup, l'État, dans la prise en compte de ses contributions déterminées au niveau national, a bien voulu vraiment intégrer le volet genre pour qu'il y ait une prise en compte inclusif, efficace et efficiente. Et il y a des documents qui ont été élaborés, tels que les contributions déterminées au niveau national. Dans ces contributions déterminées, chaque pays au niveau international doit apporter, suite à ces engagements qui ont été pris lors de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41%. Mais c'est pas les hommes seulement qui doivent le faire, c'est toute la population, les hommes, les femmes, les jeunes. Donc du coup, dans les contributions, la Côte d'Ivoire a soumis sa première contribution en 2015. Et chaque 5 ans, chaque pays doit réviser, mais être ambitieux. C'est dans ce cadre-là que pour la révision de ces contributions déterminées au niveau national qui a été soumise en 2022, on a pu intégrer le volet genre.
Vous avez pu intégrer le volet genre. Est-ce que vous avez pensé aux handicapés dans la prise en compte du volet genre?
Effectivement, cette question est très pertinente dans la mesure où, quand on parle de genre, on parle de personnes vulnérables. Tout le monde est dedans. Les handicapés, les albinos, les personnes souffrant de l'albinisme, les personnes handicapées, la jeune population, les enfants défavorisés, les analphabètes. Donc, je pense que au dernier atelier de validation du plan national d'adaptation, il y a le président des handicapés de Côte d'Ivoire qui a été invité. Toutes les parties prenantes ont été vraiment consultées. Et même s'il y a des insuffisances, il faudrait qu'on puisse vraiment rattraper ça comme ça a été fait dans les CDN. Au départ, il n'y avait pas la foresterie qui était prise en compte. Il n'y avait pas le volet genre. Il n'y avait pas l'éducation. Mais cette fois-ci, la communication, l'éducation, le volet genre est pris en compte. Et la foresterie.
La participation des femmes aux prises de décision est très faible. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les 30% ne sont pas encore atteints. Alors, quels sont les obstacles rencontrés par les femmes dans la participation aux décisions sur l'adaptation au changement climatique?
On les encourage, en fait, à prendre la parole. Au niveau traditionnel, par le passé, elles n'avaient pas cette possibilité. Elles n'avaient pas confiance en elles. Parce que quand on leur demande les besoins, ce sont les hommes. Oui, elles ont besoin de ceci, elles ont besoin de cela. Il faut savoir que pour l'adaptation au changement climatique, il faudrait résoudre cette question-là de manière différente. Et pour les hommes, et pour les femmes.
Et justement, pour les femmes, quels sont les obstacles qu'elles rencontrent?
Pour l'adaptation, les obstacles...
Dans la participation aux décisions sur l'adaptation au changement climatique, est-ce qu'elles sont consultées?
Par le passé, je dirais, elles étaient consultées, mais c'était les hommes qui étaient au devant. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les femmes ont commencé à prendre conscience qu'elles ont le droit, elles doivent connaître leur droit d'être impliquées dans les prises des décisions. Parce que le changement climatique, ce sont elles qui subissent. Donc personne ne peut venir en fait répondre ou résoudre le problème à leur place, identifier les besoins. Ce sont elles qui peuvent identifier les besoins. Donc elles sont considérées, elles sont consultées pour vraiment la prise en compte de leurs difficultés qu'elles rencontrent pour les femmes rurales, pour le volet adaptation, dans la mesure où, lorsqu'il y a des consultations, on tient compte de leur agenda. Si c'est une femme qui, par exemple, part au champ à une certaine heure, on attend à son retour, à son heure de pause, et quand elle est disponible, et on prend ses interventions, soit étant seule, pour qu'elle puisse mieux s'exprimer. Très souvent, c'est un peu difficile pour qu'elle puisse s'extérioriser convenablement. Donc, du coup, on trouve des moyens pour pouvoir vraiment avoir plus d'informations qui soient le plus réalistes possible pour la prise en compte de leurs besoins en matière d'adaptation au changement climatique.
Madame Adiko, comment l'intégration de la perspective genre peut-elle renforcer les stratégies de résilience et d'adaptation au changement climatique?
Je pense que ça va se découvrir même lors des résultats sur le terrain pour voir est-ce que les femmes sont vraiment résilientes. Peut-être que soit les femmes rurales ou agricultrices, par le passé, peut-être que c'était difficile pour elles de peut-être prendre les bois de chauffe pour pouvoir vraiment pratiquer la cuisson. Maintenant, avec l'intégration, on leur apprend les bonnes pratiques. Au lieu de prendre les bois de chauffe, pourquoi ne pas utiliser les énergies renouvelables, le gaz butane par exemple, ou bien si elles utilisent pour les femmes qui pratiquent le riz, il faudrait que au lieu de jeter les déchets, comment est-ce que on peut revaloriser ça pour que en amont, elles puissent vraiment non seulement s'approprier des bonnes pratiques et puis vraiment sur le volet familial, social, économique, avoir un co-bénéfice. Donc, toutes ces approches-là peuvent vraiment permettre à la femme de pouvoir être autonome. Parce que la prise en compte des femmes dans les stratégies, c'est pour permettre aux femmes d'être vraiment autonomes, ne pas être dépendantes du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, il pleut. On ne va pas attendre la pluie d'aujourd'hui pour pouvoir s'aimer. Et s'il pleut toute la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Donc, amener les femmes à pouvoir avoir un plan B, à pouvoir avoir un esprit plutôt créatif. Et si aujourd'hui, on plante le riz, que les cultures ne marchent pas. Il faut avoir un plan B. Il faut se reconvertir en d'autres activités. Donc, essayer de les sensibiliser pour dire que ce sont elles qui ont leur destin en main et que le changement climatique, personne ne viendra vraiment lutter pour elles. Il faudrait qu'elles s'impliquent réellement.
Vous venez de parler du cas des femmes en milieu rural. Qu'en est-il des femmes en milieu urbain?
En milieu urbain, très souvent, c'est par rapport à la gestion des déchets. Hein, parce que tel qu'on voit, il y a une certaine catégorie de femmes qui ramassent les ordures. Peut-être que c'est d'essayer de les sensibiliser, leur apporter vraiment une technologie ou avoir de bons comportements. Parce que très souvent, on remarque qu'elles, ramassent les ordures, souvent, elles ne sont pas protégées. Ça, c'est pour les femmes qui sont dans le domaine tertiaire, par exemple, dans le ramassage des ordures. Maintenant, au milieu urbain, les femmes du vivrier, comment est-ce que on peut vraiment les sensibiliser? C'est surtout dans la gestion des déchets. Parce que là, nous sommes à Abidjan, on ne pratique pas la culture. Maintenant, il faudrait qu'on les sensibilise pour qu'elles puissent avoir des comportements dans la culture de l'économie, par exemple, circulaire, ainsi de suite.
Existe-t-il des solutions, selon vous, pour inclure les femmes et les minorités de genre dans les efforts d'adaptation au changement climatique?
Les solutions, c'est de les sensibiliser, surtout la sensibilisation, la communication et l'éducation environnementale. Parce que il faut les faire sortir de leur zone de confort. Le changement climatique impacte tout le monde. Qu'elles prennent conscience de cela. Sans la prise de conscience, elles ne vont pas trouver une motivation ou d'engouement pour pouvoir vraiment s'impliquer. On n'a pas besoin d'être milliardaire ou millionnaire. On n'a pas besoin d'une aide extérieure. Déjà même, quand on parle par exemple de la réserve naturelle, pour dire qu'il faut préserver telle parcelle de terre, on n'a pas besoin de financement pour ça. Mais il faudrait que la femme ou la personne en situation difficile qui est au village, par exemple, on prend plus le village parce que ici en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, ce sont des personnes rurales. Vous avez une parcelle de terre. Comment faire pour que la génération puisse trouver cette parcelle de terre? C'est vrai, chacun a droit à une maison. Mais est-ce que il faut tout détruire? Quand vous finissez de détruire, vous mangez quoi? Il faudrait penser, sensibiliser et communiquer sur les causes, les conséquences pour notre génération à venir.
Les causes, les conséquences et les stratégies aussi.
Les stratégies, oui, oui. Quand on parle de causes, on parle de conséquences, mais quelles sont les stratégies, les solutions qu'on peut apporter? Et la solution, c'est changer de paradigme, avoir un comportement écologique, avoir une pensée écologique, ne pas gaspiller, ne pas couper pour couper ou ne pas utiliser de manière rationnelle pour atteindre un développement durable, en fait.
En quoi, Madame Adiko, le leadership féminin peut-il être une solution ou peut-il contribuer à renforcer l'adaptation au changement climatique?
Le leadership féminin peut contribuer à l'adaptation, comme je le disais tantôt, ce sont les femmes qui sont plus vulnérables au changement climatique. Et plus les femmes, le leadership est au féminin, comme on le dit, je pense que ça va faciliter la compréhension, ça va faciliter les prises de décision, ça va encourager à pouvoir vraiment s'impliquer davantage dans la lutte contre les changements climatiques. Le leadership féminin va permettre de dépasser en fait le traditionnel. Il faudrait que les femmes puissent trouver leur place dans la lutte contre les changements climatiques, puissent vraiment avoir un poids très lourd dans les prises des décisions. Parce que le leadership féminin est très important. Non seulement la femme tient le foyer, mais c'est la femme qui sait comment gérer les ressources, soit en eau, la gestion familiale. Donc si la femme est au devant, elle peut encourager ses sœurs, elle peut vraiment s'impliquer, elle peut être motivée et que le changement climatique, c'est leur affaire et c'est l'affaire de tous.
C'est l'affaire des femmes, c'est l'affaire de tous. Est-ce qu'il ne faut pas les encourager dans ce sens? Il ne faut pas prendre des décisions dans ce sens?
Oui, prendre des décisions, c'est surtout la sensibilisation, les encourager.
Oui, mais au niveau des politiques, des décideurs, je veux dire au niveau des décideurs, est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, au niveau du Parlement, introduire des propositions de loi pour encourager les femmes au leadership, surtout au niveau du changement climatique?
Effectivement, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a l'avant-projet de loi sur le changement climatique qui a été élaboré et qui est, je crois, au secrétariat du gouvernement, qui va sûrement être envoyé à l'Assemblée pour validation. Mais le volet genre est intégré pour dire que le genre est pris en compte même dans la loi sur le changement climatique.
Alors, selon vous, comment les changements climatiques influencent, accentuent les inégalités de genre existantes dans certaines régions du monde, dans certains pays africains, notamment en Côte d'Ivoire?
Je pense que les femmes sont déjà vulnérables. Le changement climatique vient accentuer cette vulnérabilité-là, dans la mesure où, au niveau de la possession des terres, par exemple en Côte d'Ivoire, dans certaines régions, la femme n'a pas droit à la terre. Et quand elle a droit, soit c'est quand elle est mariée ou elle devient veuve, automatiquement, elle perd la parcelle parce qu'elle n'a pas droit à la terre. Et compte tenu du changement climatique, vu qu'il y a des parcelles qui sont arides, donc du coup, elle devient encore plus vulnérable. Elle va aller où pour pouvoir cultiver. Par contre, très souvent, dans les régions de l'Ouest, par exemple, ce sont les femmes qui utilisent les bas-fonds pour la culture du riz, par exemple. Si les bas-fonds sont asséchés ou il y a moins d'eau dans certaines zones, par exemple, ça va vraiment augmenter la tâche des femmes. Donc, du coup, elles seront deux fois plus touchées, et au niveau de sa santé et au niveau économique, parce qu'elle n'aura pas les moyens de subvenir à ses besoins, parce que le changement climatique aura peut-être gâté toute sa culture, et pour cela, elle aura besoin de financement. Mais si elle n'a pas pu s'aimer, elle n'a pas pu cultiver parce que le changement climatique est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va accentuer en fait son état sur le plan économique, au niveau social, au niveau familial, pour son épanouissement même. Compte tenu des changements climatiques, si vous êtes dans une zone, par exemple, qu'il y a une inondation, elle ne pourra pas faire évacuer ses produits. Et même quand elle arrive à évacuer ses produits par rapport à la chaîne de valeur, à qui est-ce qu'elle vend? Parce qu'il pleut, tout est gâté. La pluie a exagéré, donc il n'y a plus de culture. Et même le peu qu'il y a, c'est pour se nourrir. Donc, elle n'a plus de liquidité sur elle. Et la plupart du temps, les femmes qui sont agricultrices là, ce sont elles qui tiennent la famille au niveau économique. Donc, du coup, pour la plupart, elles scolarisent. Elles sont au four, au moulin, pour pouvoir vraiment apporter un bien-être familial. Donc, si elles sont vraiment impactées par le changement climatique, ça va engager beaucoup de problèmes au niveau économique. Pour l'épanouissement de la famille, il y aura peut-être même des violences. Parce que là, il n'y a plus d'argent. Tout le monde est nerveux à la maison, en fait. Voilà, parce qu'elle n'est plus efficace. Elle est fatiguée, tout le monde est nerveux. Donc, du coup, ce sont des réalités, en fait. Donc, le changement climatique, là, ça peut impacter aussi le bien-être familial.
Alors, quel rôle les hommes et les femmes jouent-ils dans la gestion des ressources naturelles? Et comment cela influence-t-il leur adaptation au changement climatique?
Il faut dire que chacun a son rôle à jouer. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Il ne faudrait pas qu'il y ait une concurrence. Il faudrait qu'il y ait une complémentarité, en fait, dans les actions. Parce que c'est la communication qui importe. Il faudrait pas que madame dise oui, parce que toi, ton champ a été inondé. Monsieur dise, bon, là, ça a été inondé, on n'a plus rien. Bon, toi, parce que tu es femme, tu peux plus faire le cacao. Parce que toi, ton rôle, c'est de faire les cultures maraîchères, vivrières. Maintenant, imaginons que, par exemple, les cultures du cacao sont en péril dans ce sens-là. Qu'est-ce que les femmes doivent faire? C'est une sorte de complémentarité, en fait, dans le rôle. Il faudrait que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir aller vers un développement durable sur tous les plans, en fait.
Comment les migrations climatiques s'orientent-elles différemment entre les hommes et les femmes?
Effectivement, suite au changement climatique, on peut dire que chacun vit ce changement climatique-là de différentes manières. Quand une famille, par exemple, se déplace, vous rentrez dans une autre famille, une famille d'accueil, et là, le mode de vie change. La cohabitation devient très, 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 très difficile. Tu es venu me trouver, il faut t'adapter. Et là, c'est compliqué. Les enfants, entre eux, il n'y a pas d'entente. La femme, elle n'est pas chez elle. Elle est obligée de s'adapter. Pendant ce temps, peut-être le monsieur, lui, sort. La femme qui est obligée de tenir la maison, vu qu'il y a eu un déplacement. On était dans un village, il y a eu une inondation par exemple. On vient dans une famille d'accueil, soit chez un cousin, s'il y a une jeune fille, soit c'est elle qui devient la servante, ou bien bon, on n'a plus rien à manger, la famille s'est déplacée, chacun va à ses occupations de différentes manières. Du coup, la petite fille qui partait à l'école, elle n'ira plus à l'école. Le petit garçon, il va rejoindre son papa pour vraiment accentuer, pour pouvoir vraiment trouver quelque chose, soit les petits métiers. Donc du coup, il y a une dislocation familiale. Très souvent, il y a des violences conjugales. Il y a un dérèglement au niveau du mode de vie, en fait, familiale. Donc, les migrations, il y a des conflits, parce que là, il faut trouver des parcelles pour pouvoir cultiver, et vous n'êtes pas chez vous. Bon, qui va donner ces parcelles? On vous donne, vous êtes menacé. Bon, si je cultive sur un hectare, le propriétaire te dit, bon, moi, j'ai 50 sur la culture qui sera récoltée, qui sera faite. Bon, toi, tu ne peux rien dire parce que tu n'es pas chez toi, tu t'es déplacé. C'est un peu compliqué.
Alors, comment le genre peut-il être intégré dans les programmes de formation à la résilience climatique?
L'intégration du genre dans les programmes, très souvent, on parle de la sensibilisation. Dans les programmes de formation, si on parle d'éducation formelle, par exemple, il faut intégrer le volet genre dans les curricula, par exemple, de formation au niveau formel. Et si c'est informel, il faut une sensibilisation. C'est-à-dire dans les programmes, par exemple, on veut sensibiliser les femmes aux bonnes pratiques. Il faut vraiment que les formateurs puissent intégrer ce volet genre-là dans une ligne pour que tout cela soit pris en compte. Et même budgétiser ça, en fait. Parce que pour la prise en compte du genre, il faut parler de la budgétisation. Si, par exemple, le conseil régional ou bien la municipalité, dans tous nos plans territoriaux, il faudrait vraiment intégrer le volet genre. Donc, si on n'a pas planifié dès le départ, on ne peut pas financer des projets genre parce que tout est une question de planification. Donc, il faut planifier dès la base, dès la conception même. C'est comme ça, de manière très pratique, très concrète, non seulement identifier les besoins sexo-spécifiques et puis intégrer ça dans la planification, dans les politiques, dans les stratégies, dans tout ce qu'on fait. Il ne faudrait pas occulter ça depuis la conception du projet.
Madame Adiko Ange Patricia, je vous remercie.
C'est moi plutôt qui vous remercie et on compte sur vous pour que le genre soit vraiment inclusif, le genre soit vraiment efficient et que le changement climatique, c'est une affaire de tous et que chacun puisse vraiment apporter sa pierre à l'édifice et que c'est ensemble qu'on pourra assurer un lendemain meilleur pour notre avenir. C'est moi qui vous remercie.
L'interaction entre le genre et l'adaptation au changement climatique révèle l'importance capitale d'intégrer une perspective de genre dans les stratégies climatiques. Les femmes et les hommes vivent et perçoivent les impacts climatiques de manière différente en raison de leur rôle socio-économique distinct, en raison de l'accès inégal aux ressources et aux opportunités, ainsi que des variations dans les capacités d'adaptation. En reconnaissant et en valorisant ces différences, il est possible de concevoir des politiques et des interventions qui répondent de manière plus équitable aux besoins de tous les membres de la société. À la technique, il y avait Antoine Kouassi, Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à très vite sur Radio de la Paix.
Cette entrevue vous a été proposée avec la participation de CFI, Agence française de développement des médias, dans le cadre du projet Terra Africa.
C'était l'entrevue